indépendance en pensant tout simplement appliquer les droits qu'on leur avait appris. C'est-à-dire qu'ils ne partaient pas dans une idée d'antagonisme. Ils disaient, mais nous, on nous a dit, il y a les droits de l'homme, il y a les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Donc finalement, ils sont partis en suivant ce qu'il y avait de meilleur dans notre pays, et ils ont rencontré le pire. C'est une question qu'on me pose chaque fois. Nous sommes une association de 1200 membres à survie. Il y a 1200 adhérents. Nous avons un comité de promotion prestigieux avec des personnalités morales, religieuses, sportives, intellectuelles, politiques, de tous ordres. Donc, la stratégie, je pense, c'est plutôt celle de l'édredon. Parce que il vaut mieux ignorer, essayer de marginaliser ce qui est produit, ne pas nous inviter. Fait quand même assez souvent l'objet de boycotts de la part des médias. Assez souvent, des présentateurs télé ou radio qui m'invitent perdent leur place. Donc je ne veux pas non plus leur faire trop de peine. Donc c'est des moyens soft, des moyens cool. D'autre part, nous sommes encore en démocratie. En principe, les services secrets français ne font pas, comme on appelle, d'opérations homicides contre des citoyens français. En principe, je dis bien. Ce que je veux dire par là, c'est que la question dans tout combat, c'est celle du risque relatif. Si des Africains qui sont venus nous expliquer tout ça, qui ne peuvent pas le dire dans leur pays, disaient cela, ils seraient morts depuis longtemps. Donc, en termes de risque relatif, c'est bien la moindre des choses que nous, qui bénéficions d'un minimum de liberté, nous contribuions à faire ce travail. Le risque zéro n'existe pas, mais... encore une fois, je pense que, enfin moi personnellement, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens dans notre association, si nous ne disions pas ce que nous avons vu, on pourrait plus se regarder dans la glace.
Je vais ajouter une petite parenthèse par rapport à ça. J'ai eu l'occasion de participer à un séminaire auquel je suis intervenu. C'était une réunion du CCFD dans les Côtes d'Armor. Donc j'ai interpellé le ministre par rapport aux choses de l'Afrique. Et après, on a partagé, j'ai discuté avec Jocelyn pendant au moins 10-15 minutes, facilement. Et lui, de m'expliquer, il connaît très bien les termes d'achat, il connaît très très bien les choses, et il disait comme ça, attention, Verschaft, des fois, il dépasse la ligne jaune. Il fallait bien dire quelque chose. Il dépasse la ligne jaune. Vous voyez, on tolère les trucs, et si ça va trop loin, les politiques sont conscients de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Et un autre petit détail, le 17 avril, c'était la 17e chambre correctionnelle a donné le résultat du procès en appel contre les chefs d'État. Vous avez tous entendu l'information le même jour pour la même chambre correctionnelle, mais ça parlait du ministre DSK qui était blanchi pour l'affaire Lena, alors que François Xavier passait l'après-midi dans la même chambre correctionnelle pour gagner son procès contre les trois chefs d'État. Aucun média n'en a parlé, mais l'affaire Lena a été initialisée en partie dans le bouquin Noir Silence. Il a démontré, puisque François Xavier a été attaqué dans son livre Noir Silence par la personne qui a vendu. Je te laisse expliquer plus en détail. Si
tu veux. Oui, par le numéro 2 de la DGSE. Numéro 2 de la DGSE, Pierre Lettier, qui m'a fait aussi un procès en diffamation, parce que j'ai expliqué que qu'en fait, cet argent. Ça nous entraînerait sur une autre conférence et sur un autre livre, si vous voulez. Disons que l'une des sources des maux que nous sommes en train d'expliquer, et qui ne concerne pas que la France, mais aussi les États-Unis et d'autres pays, c'est que tous les services secrets estiment que ce que leur votent les démocraties est tout à fait insuffisant pour faire leur action. Ils nous disent carrément on a besoin de 4, 5, 10 fois plus. Donc, où est-ce qu'on trouve le reste de l'argent? On le trouve en prenant notre part du pétrole, en prenant notre part dans les trafics d'armes, où les commissions sont gigantesques, parfois de 50%, et y compris, ils l'avouent, ils le font, dans le trafic de drogue, etc. Charles Pasqua, j'ai expliqué dans mes livres qu'il était le créateur de la French Connection, et à ce sujet, il ne m'a jamais fait de procès en diffamation, bien qu'il en ait fait un ailleurs.
Vous avez totalement raison pour le service secret, mais ça se passe exactement pareil en Chine. En URSS, partout, ils mettent la main dans la caisse en vendant des armes, en faisant du noir, en vendant de la drogue chez l'Amérique du Sud, chez. Voilà. Dans tous les pays, c'est le service secret qu'on travaille là. Parfaitement. C'est pour ça qu'on les appelle services secrets.
Vous parlez partout de l'influence américaine au Congo en ce moment.
Il
y a du pétrole
là aussi. Oui, alors en fait, là aussi, ça nous entraîne dans des considérations assez longues, mais que je vais résumer très brièvement. Je développe ça dans Noir Chirac. C'est-à-dire qu'en fait, l'un des quatre raisons de la France-Afrique, la quatrième, c'est la sous-traitance de la guerre froide. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, les principaux réseaux français en Afrique sont des réseaux très liés à l'OTAN, très liés à la guerre froide. Même Focard était très proche de l'OTAN, et je pourrais donner des tas et des tas d'exemples. La propagande anti-américaine qui est développée par les Français en Afrique est une propagande à usage subalterne. C'est-à-dire on dresse, les gens disent, voilà, il faut lutter contre les Américains. Mais en réalité, dès que les choses deviennent importantes, on assiste à des alliances franco-américaines et à des partages de tâches. Dans le pétrole angolais, dans les plus grands puits d'Afrique et peut-être du monde, gisements, vous avez des camemberts où vous avez 42,5% pour Total Elfina, 42,5% pour une firme américaine ou anglo-saxonne, donc on voit bien qu'on s'entend, et puis il reste 10% pour Falcon Oil. C'est-à-dire que M. Falcon, qui est marchand d'armes, a créé une société de pétrole. Il n'est pas plus pétrolier, vous et moi, mais ça sert à acheter des armes. Et il y a 5% pour une firme de mercenaires. Donc, dans les plus grands gisements de la planète, sont inscrits 15% de fournitures de biens et services de guerre qui vont permettre de continuer la guerre un peu partout. M. Falcon, du réseau Pasqua, anti-américain, a été le principal contributeur de la campagne de Bush avec le PDG d'Enron, à la même hauteur. Quand les journaux américains ont voulu enquêter là-dessus, on leur a dit « arrêtez, c'est pas bon pour l'image de M. Bush ». Bon, donc, vous voyez que, et ce fameux anti-pasquoyen Falcon vit aux États-Unis, pas loin de chez M. Bush. Et je pourrais vous donner des tas d'exemples. Charles Pasqua a mis en place la French Connection avec les services secrets français, sous couvert de Pernod Ricard. Il était directeur de commercial de Pernod Ricard. Son bras droit pour l'Amérique du Nord, qui s'appelait Jean Venturi, lié au réseau Corse, était établi à Montréal. On a une note de la direction de lutte contre la drogue américaine qui date de 1961 et qui dit « Monsieur Venturi est le responsable de la French Connection aux États-Unis ». Eh bien, Monsieur Venturi est resté tranquille à Montréal jusque 1967. Tout simplement parce que Monsieur Pasqua travaillait en bonne intelligence dans sa part de sous-traitance de la guerre froide. Donc, au Congo-Brazzaville, c'est très simple, on laisse faire la France. Et on échange, par exemple, avec le Tchad. Il y a un très gros puits à la frontière du Congo et de l'Angola. Très bien. On passe par-dessus les deux pays, on découpe une espèce d'enclave, moitié pour une compagnie française, moitié pour la compagnie américaine. Donc vous voyez, ça se passe assez bien. Par contre, ça se passe bien, mais parfois, il y a des problèmes. En ce moment, il y a un gros problème avec l'Irak. Alors là, on est en train de se fâcher. Parce que ceux qui ont mis en place un certain nombre de mécanismes de la guerre froide et qui sont derrière l'élection de Bush veulent absolument mettre la main sur le pétrole irakien. Donc la possibilité d'une opposition française met en ce moment les feux au rouge. Et puis il y a un autre phénomène dont il faut que je vous parle aussi pour ne pas donner une vision trop manichéenne et trop réductrice, parce que les choses sont plus compliqué toujours que ce que je viens de résumer, c'est qu'il y a depuis 10 ans un conflit extrêmement violent au sein de la France-Afrique entre ce que je pourrais appeler les anciens et les modernes. Pour essayer de comprendre, il faut voir ce qui s'est passé en Amérique latine à partir des années 75. À Washington, par rapport à l'Amérique latine, on a dit si nous voulons maintenir notre hégémonie, notre influence sur l'Amérique latine, il faut installer partout des gouvernements de sécurité nationale tortionnaires. Et à partir de la fin des années 70, dans tous les pays d'Amérique latine, sauf un, le Costa Rica, je crois, se sont installés des gouvernements terribles de dictatures tortionnaires, les Pinochet au Brésil, en Argentine, etc. 10 ans plus tard, à Washington, nouvelle école. On dit, mais si on continue comme ça, avec des régimes aussi peu présentables, on va perdre l'Amérique latine. Donc, en l'espace de 4-5 ans, toutes les dictatures sont tombées. Eh bien, depuis 1993, il y a la même chose en France. Il y a des gens qui disent, si nous continuons de soutenir les pires dictateurs, nous allons perdre l'Afrique. Et ce conflit, qui était aussi autour de la prise d'Elfe, s'est caractérisé, en 1993, par l'opposition entre le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, et son bras droit, Dominique de Villepin, qui était directeur de cabinet, avec les réseaux pascoyens, mitterrandiens, et une partie des réseaux chiraciens. Ça a été très mal sur l'Algérie, et c'est sans doute aussi de ça que sont morts les moines de Tibérine. Il y a eu des conflits très violents parce que la partie moderne, appuyée sur la DGSE, tandis que la partie ancienne était appuyée sur la DST, n'avait pas du tout la même stratégie par rapport à la libération des moines de Tibérine. Quand Juppé est arrivé à Matignon en 1995, il est arrivé avec sous le bras, aussitôt, le premier jour, le rapport du meilleur africaniste français qui s'appelle Jean-François Bayard et qui dénonçait la criminalisation des États amis de la France en Afrique. Il a dit à Chirac, on ne peut plus continuer comme ça. Chirac a dit oui. Il a dit à Focard de ne pas revenir à l'Élysée pour quelques semaines. 15 jours plus tard, l'affaire de l'appartement de Juppé paraissait dans le Canard enchaîné. Et Juppé comprenait qu'il ne pouvait pas continuer. Et donc, tout ce que vous avez appris depuis, l'affaire Elf, l'Angola Gate, tout ça, ce n'est pas les juges qui l'ont trouvé par hasard. C'est tout simplement que ce conflit est tellement violent que chacun balance les dossiers de l'autre. Et que la DGSE en particulier ne cesse de vous révéler les péripéties de M. Marchiani, les péripéties de M. Falcone, M. Guédamac, tandis que la DST va par exemple cafeter du fait qu'il y avait 4 représentants d'ONG qui étaient en Tchétchénie, qui étaient soi-disant otages, mais qui étaient en fait des agents de la DGSE. Donc pour que les services secrets français dénoncent leurs propres agents mutuellement, vous imaginez que la guerre est poussée très loin. Or, Dominique de Villepin est devenu ministre des Affaires étrangères depuis quelques mois. Et il a affronté, à propos de Madagascar, les partisans du dictateur Ratsirak, notamment le monsieur Afrique de l'Élysée, Michel Dupuche, à côté de Jacques Chirac. Et il a gagné. C'est-à-dire que la France a penché finalement pour celui que les Malgaches avaient élu. Et Dupuche a été obligé de démissionner. Donc le monsieur Afrique de l'Élysée a été obligé de démissionner. Et puis les mercenaires qui voulaient aller aider Ratsirak ont été arrêtés, comme par hasard, sur la route. On savait qu'ils allaient partir, mais on a voulu montrer qu'il y avait des changements. Dans l'affaire de Côte d'Ivoire, il y a aussi des choses qui ne sont pas inintéressantes. Survie, que vous allez imaginer, comme on dit, comme une organisation ultra-radicale, extrémiste, de tout ce que vous voulez, nous avons fait signer un appel pour prévenir les massacres en Côte d'Ivoire qui a été signé par toutes les ONG françaises, toutes pratiquement, y compris la Fédération des droits de l'homme, toutes les ONG. Et cette pétition disait, il faut que la France prenne ses responsabilités pour que ça ne se passe pas comme au Rwanda et qu'on empêche les massacres. Donc nous ne sommes pas dans une attitude où nous disons, il faut le pire. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est sauver les vies. Donc je voulais vous dire tout simplement que, en ce moment, la situation n'était pas simple, que la guerre continue de faire rage, qu'il y a des gens qui veulent maintenir au pouvoir Iyadema, le Tchadien Déby, Sassou Nguesso, et qu'il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ont regardé l'émission sur le juge Borrell il y a un mois sur Canal+, émission tout à fait remarquable, verront qu'à un moment donné, le journaliste, parlant du dictateur djiboutien Guélé, montre le rapport de la DGSE, les services secrets français, sur M. Guélé, en disant que c'est un mafieux. Mais où est-ce que ce journaliste a obtenu un rapport de la DGSE? Ça ne se trouve pas non plus comme ça. Donc ça montre, si vous voulez, que ces combats continuent de faire rage.